France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Catherine Pégard.
Elsa Boublil.
Il faut être superficiellement superficiel.
Louise de Villemorin.
Sie pfiff den armen Flüchtling aus. Wir hätt's hier bemerken sollen, des Hauses auf der Städte Schild, so hätten ihm ersuchen wollen, ihm aus sein treues Frauenbild. Schmerzen, ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt ihnen in den Herzen wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut.
C'est sur cet extrait du voyage d'hiver d'Yvetter Fan, la girouette, interprétée par Alfred Brindel et Mathias Goerne, que nous vous accueillons Catherine Pégard, présidente du Château de Versailles, ancienne journaliste, puis conseillère de Nicolas Sarkozy. Vous présidez aujourd'hui le domaine du Château de Versailles depuis fin octobre 2011, où il faut bien le dire, de plus en plus de musique se fait entendre. Comme le voyage d'hiver de Schubert, je crois que vous avez...
Oui, on l'a programmé une seule fois, l'année dernière, parce qu'on avait une exposition, l'exposition d'art contemporain, qui était consacrée à une quinzaine d'artistes différents, d'âges différents, de nationalités différentes, avait été conçue par Alfred Pacman et Jean Deloisy, qui m'accompagnent dans les choix des artistes contemporains chaque année, avait été conçu comme un voyage d'hiver parce qu'il se déroulait dans les bosquets du château de Versailles l'hiver.
Voilà.
Et le titre s'était imposé de lui-même, ce voyage d'hiver. Et tout d'un coup, Versailles pouvait être le lieu d'un voyage d'hiver.
C'est.
Nous avons donné une seule fois cette merveilleuse musique. Malheureusement, sans Mathias Goerne qui était pris ce jour-là, mais avec Goura qui était formidable. Mais j'ai des souvenirs de Mathias Goerne, notamment à Aix, avec Kenridge qui faisait la mise en scène des voyages d'hiver. Et je crois que c'est une musique, j'allais dire, qu'on peut écouter tout le temps, parce qu'elle est à la fois la fin de quelque chose, mais quelque chose qui ne finit pas.
J'ai lu que c'était un rêve, Catherine Pégard, pour vous de le programmer.
Oui, c'était un rêve, parce que justement, je trouve que cette musique, il y a à la fois cette plénitude, cette nostalgie, ce lien, en effet, avec la nature qui renvoie à vos propres sentiments. Et en effet, maintenant que vous le dites, le lien avec Versailles peut se faire assez facilement aussi à travers ces jardins de Versailles qui sont bien plus que des jardins.
Je voulais revenir sur votre devise. Il faut être superficiellement superficiel, que je trouve une phrase extraordinaire, donc de Louise de Villemorin. C'est vraiment votre devise?
C'est pas ma devise, mais je trouve que ça va bien pour un journaliste.
Oui.
Parce que je pense que... on taxe souvent les journalistes d'être superficiels et je pense qu'ils ne le sont que superficiellement.
Ouais.
Et que
pourquoi d'ailleurs?
Qu'ils sont superficiellement, ouais, ou qu'ils sont superficiels?
Les deux.
Je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut à la fois la légèreté et il faut avoir aussi cette humilité d'aller vers les autres, ce qui implique un peu de profondeur quand même.
Ouais.
Et je crois que c'est toujours un équilibre entre ce qu'on ne sait pas et ce qu'on va savoir, ce qu'on va découvrir et qu'on ignorait la veille. Et je crois que c'est ce qui m'a passionnée dans le métier de journaliste.
Catherine Pégard, vous êtes l'invitée de Musique et moi ce matin jusqu'à 12h30 sur France Musique. Merci d'être avec nous.
Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait « L'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours.
Attention ! Cria Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre.
Tandis qu'au milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins-coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant « Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j'arriverai ?» L'oiseau se sera envolé. Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ?
Tous reconnu la voix de Gérard Philippe dans ce Pierre et le loup de Prokofiev. Pour commencer cette émission avec vous, Catherine Pégard, évidemment, j'ai choisi Gérard Philippe en me disant que ça devait être le narrateur qui avait bercé votre enfance.
Absolument, c'est mon premier disque et c'est cet enregistrement par Gérard Philippe. Je me souviens très bien de la pochette. C'était un vinyle.
Oui.
Et voilà, j'étais à l'école Raspail du Havre, cours préparatoire.
Et on écoutait
c'est
ça.
Le premier disque que mon père m'ait offert parce qu'on travaillait sur Pierre et le loup en classe. Le texte.
Le texte, pas la musique.
Non, et mon père m'avait offert le disque et la musique puisqu'on avait travaillé sur les animaux et sur ce qui d'ailleurs me semblait un peu ennuyeux.
Ah bon ?
Et à tout prendre, je préférais la musique.
Ouais. Est-ce que ça vous a permis de découvrir les instruments de l'orchestre comme ça se
Bien sûr. Alors ça, c'est venu un petit peu plus tard. Dans les années de lycée plus que dans les années d'école primaire. À l'école primaire, il y avait seulement une chorale. Et quand je suis arrivée au lycée, là, il y avait un petit orchestre.
Ah, quelle chance.
C'est d'ailleurs comme ça que je me suis essayée au violoncelle. et que j'étais nullissime. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être tout à l'heure nous écouterons un peu de violoncelle, parce que j'en écoute beaucoup, et ça me renvoie à mon absence de talent pour le violoncelle, ou pour toute musique d'ailleurs.
Vous avez grandi au Havre, vous le disiez à l'instant. Quel environnement, Catherine Pégard?
Quel environnement? L'environnement du bonheur. Je crois que j'ai été une petite fille très heureuse.
Très aimée.
Et très aimée. Et dans une ville qui n'était pas très joyeuse, parce que c'était le Havre d'après-guerre, dans cette Normandie que seuls les Normands aiment et trouvent colorée, mais qui est souvent très grise. Et je crois que, oui, je n'ai que des souvenirs, c'est un petit peu bête à dire, mais des souvenirs simples. Et je crois que c'est aussi très structurant pour la suite. Parce que ça donne sans doute une... C'est bien d'être aimé d'abord, pour grandir. Et puis ensuite, ça donne des rails. Et je crois qu'il faut avoir quelques rails assez bien définis. D'abord pour se permettre des embardées ou des pas de côté déjà. Je pense que c'est pas... Je veux pas avoir l'air sinistre en vous disant cela. Je pense que c'est bien d'avoir des choses qui vous guident, qui vous marquent. Et puis après, vous pouvez vous en évader.
Puis on pense bien sûr au regard porté sur l'horizon maritime au Havre.
Ah ben bien sûr, parce que ça c'était... Alors là, je suis intarissable, puisque mon père était capitaine au long cours. Et devenu pilote, et donc il rentrait les gros bateaux qui maintenant seraient tout petits, parce que maintenant ce sont des porte-containers gigantesques, dans le port du Havre. Et évidemment, dans mes yeux d'enfant, c'était l'aventure.
Thank you.
Samson François interprète ce nocturne numéro 9 en si bémol majeur opus 32 de Frédéric Chopin. En l'écoutant, Catherine Pégard, je vous imaginais, vous, enfant, le regard au loin, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la mer, le regard au loin sur l'horizon, sur la mer, songeant à cet ailleurs où votre père allait, mais je ne sais pas si, du tout si ça correspond à ça.
Alors, il avait, quand j'étais petite fille, il avait cessé d'aller loin, puisqu'il restait dans le port du Havre, mais effectivement, nous vivions au rythme des marées et donc on avait quand même tout à fait l'impression qu'il y avait tous les jours quelque chose qui recommençait un peu dans le lointain. Oui. Vous avez parfaitement raison. Mais là, le lointain, en fait, c'était quand même ce concert où mes parents étaient allés, concert de Samson François au Havre, où il n'y avait à l'époque pas de salle vraiment faite pour cela. Et je vois encore mes parents partir au concert pour aller écouter Samson François. Ça paraissait extraordinaire, on n'avait pas l'habitude. Mmh. En plus, lui-même, avec ce regard, je me souviens très bien de la pochette du disque, là encore, le regard totalement fiévreux, la mèche un peu de travers, la moustache, je crois une cigarette pas loin, toute chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Non. Et puis sa manière d'être aussi à Samson François, je crois qu'il disait qu'il aimait la musique, que tout bêtement, pas plus que ça. Et avec cette capacité de s'amuser de la musique, et même des choses là encore les plus profondes. Et je crois que mon père était toujours dans cette espèce d'ambivalence là aussi, d'aimer à la fois ce qui pouvait paraître nostalgique et en même temps de ne jamais céder à ce pessimisme.
Vous étiez donc dans un monde dans lequel la musique avait une présence, ou est-ce que vos parents ont choisi d'aller voir Samson François parce que c'était incontournable, Catherine Pégard?
Ah non, c'était pas incontournable du tout. Et puis d'abord, mes parents ne jugeaient pas les choses parce qu'elles étaient incontournables. Mais je crois que mon père surtout adorait la musique et écoutait beaucoup de musique. Et donc on avait, vous savez, ce grand meuble en bois de palissandre avec les disques qui tournaient. Et les cadeaux de Noël, c'était les coffrets qu'on offrait pour marquer tel anniversaire de Rubinstein, telle série de disques de la Callas. Et donc mon père était très attentif, avait sa petite feutrine pour nettoyer les disques et était très respectueux de la musique et aimait beaucoup la musique. Ma mère également, avec sans doute plus de gaieté, plus d'éclectisme que lui. Mais donc j'ai toujours entendu de la musique, mais sans qu'il n'y ait aucune expertise dans la famille sur le sujet, et on ne se précipitait pas parce qu'il y avait tel enregistrement plutôt que tel autre. On aimait ça, c'est tout.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Avec Catherine Pégard ce matin jusqu'à midi et demi. Et cette question, puisque la musique était proche, on sent une atmosphère en tout cas intéressée par l'art. Est-ce que vous, à un moment, l'idée de vivre pour l'art vous a effleuré, Catherine Pégard?
Non, je ne crois pas. Je n'en aurais pas eu. Je n'avais pas assez de talent pour ça. Et puis surtout, là aussi, c'est peut-être un peu ridicule, mais je voulais être journaliste.
Et vous savez pourquoi?
Je ne sais pas, par curiosité.
Bellissi d'arte, extrait de Tosca de Puccini par l'orchestre, et le chœur de l'opéra d'État de Vienne, c'est Leontine Price qu'on écoutait, et c'était sous la direction de Herbert von Karajan. Alors, cet air si connu de Tosca de Puccini, je crois, Catherine Pégard, c'est pas l'air, c'est l'opéra qui est un souvenir de plus grande enfance, j'imagine.
C'est mon premier opéra.
C'est ça.
La première fois que je suis allée à l'opéra, nous sommes venus du Havre pour aller à l'Opéra Garnier écouter Tosca. Et mes parents étaient enchantés et j'avais 15 ans, j'étais pas très enchantée en fait.
Ah oui ?
Pas du tout même, parce que je professais l'idée que c'était pas si intéressant que ça. Fallait bien se démarquer de temps en temps. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai dit une bêtise énorme en sortant de cet opéra que je regrette encore et que je m'entends dire à chaque fois que j'écoute Tosca. J'ai dit à mon père, heureusement qu'il y a le plafond de Chagall. Et mon père m'a regardé avec beaucoup de commisération et il m'a dit, tu changeras d'avis. Et c'est tout, mon père était assez laconique et j'ai eu l'occasion et le temps de changer d'avis puisque j'ai vu depuis des dizaines de fois Tosca et toujours avec la même émotion.
Est-ce que vous pensez que ça a été comme avec le vin, finalement, on goûte, on n'aime pas, et puis à force de goûter, on y revient, c'est-à-dire...
Oui, peut-être, et puis, bon, je crois que j'avais à peine 15 ans, j'étais jeune quand même. Et puis c'est aussi un moment de la vie où on a envie d'avoir ses propres idées, et c'est vrai que cette joie de mes parents d'être à Paris pour aller à l'opéra, pour écouter Tosca, j'avais peut-être un peu envie
de
m'en démarquer et puis de leur montrer que j'avais ma propre autonomie et que je pouvais dire autre chose.
À quel moment, justement, le goût, parce que vous avez un goût très prononcé pour la musique, et notamment pour l'opéra, à quel moment est-ce revenu, Catherine Pégard ?
Après cette période-là, ça a été très, très vite et très présent dans ma vie toujours et j'ai eu cette chance de pouvoir aller beaucoup écouter de la musique, d'avoir beaucoup d'amis qui m'ont emmené écouter de la musique, d'être entourée de gens qui adorent la musique. Quand j'étais au point, évidemment, Claude Imbert adorait la musique, André Tuboeuf est un
grand
maître absolu pour moi. Mais quand je dis maître, c'est pas du tout la relation de maître à élève, c'est la relation de toute la tendresse du monde pour quelqu'un qui connaît la musique comme personne ne la connaîtra plus jamais.
J'invite d'ailleurs les auditeurs à réécouter l'émission qu'on a faite avec lui, Musique et moi.
Superbe émission.
Oui, c'est quelqu'un qui sait vraiment parler de musique.
Et qui a les mots pour le dire et donc les mots pour le transmettre. Mmh. C'est sa passion. Et moi, j'ai appris au fil du temps et surtout appris en écoutant et en allant écouter. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le titre de votre émission correspond assez bien à ce que je ressens, puisque ce sont à chaque fois des émotions. C'est pas simplement écouter une musique qui vous accompagne, c'est aussi des émotions à chaque fois extrêmement précises. Thank you.
Le scherzo allegro moderato du trio numéro 2 en mi bémol majeur D929 de Franz Schubert, interprété par Renaud et Gauthier Capuçon ainsi que Franck Bralet. Catherine Pégard, on parlait de l'écoute tout à l'heure. L'écoute nous transporte, nous émeut. Ça a été votre cas avec les frères Capuçon?
Ah oui, alors ça c'est tout à fait, c'est deux souvenirs à la fois, parce que c'est effectivement le souvenir des frères Capuçon, mais c'est encore une fois le souvenir du point. Et à chaque fois que j'écoute ce trio, je pense au point, parce que les frères Capuçon étaient venus jouer pour le 25e anniversaire du point, 1997, à Orsay. Et ils étaient tout jeunes, je pense que Renaud devait avoir 20 ans et son frère 16 ou quelque chose comme ça. Et justement, ils avaient été plus ou moins découverts à Divonne-les-Bains, par Claude Imbert et André Tuboeuf, oui, au festival de Divonne, et on leur avait demandé de venir proposer un divertissement pendant cet anniversaire du point. Et donc, depuis cette musique, à chaque fois que j'y pense, je pense au point, et ça a donné aussi une grande fidélité dans ma relation avec les frères Capuçon, puisque oui, j'ai eu cette bizarrerie de la vie qui a fait que je les ai connus très jeunes et que j'ai pu les voir grandir avec la musique.
Mais vous, Catherine Pégard, qui vous êtes formée à l'écoute, hein, simplement depuis la tendre enfance, vous avez pu observer à ce moment-là, quand ils sont venus jouer, qu'il y avait quelque chose de particulier?
Alors, est-ce que je l'ai observé moi-même ou est-ce que j'ai entendu André Tuboeuf l'observer? Ça va peut-être ensemble.
Oui.
Mais ils avaient déjà cette espèce d'énergie l'un et l'autre, cette fougue, cette générosité. Mmh. Et ça, je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, ils ressemblent à ce qu'ils étaient, mmh, même physiquement.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous avez programmé, je crois, Renaud Capuçon, il n'y a pas si longtemps.
Renaud Capuçon est venu au printemps dernier, en juin dernier, pour une sorte de carte blanche à Versailles. Et il a fait quelque chose qui est magnifique. Il a fait un parcours dans le château, mmh, en jouant dans le salon d'Hercule et puis ensuite dans la Galerie des Glaces et à la chapelle. Mmh. Et le public le suivait. Et ces déambulations en musique que le château de Versailles peut nous offrir, c'est quelque chose de merveilleux qu'on ne peut pas faire dans beaucoup d'endroits. Moi, je me souviens d'avoir vécu un moment extraordinaire au Louvre, quand Patrice Chéreau avait eu cette carte blanche au Louvre et il avait fait venir Walt Rudmeyer, qui accompagnait d'un piano traverser les salles du Louvre en chantant Wagner, ce qui était un moment absolument incroyable. Et j'étais restée marquée par cela et j'ai découvert qu'à Versailles, on pouvait faire la même chose avec d'autres musiques peut-être, et dans une déambulation qui raconte l'histoire de Versailles, puisque à Versailles, tout était musique.
On parle depuis tout à l'heure de musique, Catherine Pégard, et pourtant vous avez été essentiellement journaliste politique.
Oui, j'ai été essentiellement journaliste politique, 30 ans de ma vie.
Oui, pourquoi politique? On va pouvoir en parler, hein, mais...
Ah, je crois que je le dois à Philippe Tesson.
Oui.
Je voulais être journaliste et dans les péripéties que l'on connaît tous quand on commence à travailler, j'avais plutôt dans l'idée de travailler dans une rubrique culture. Et Philippe Tesson m'a dit « Non, vous voulez trop ça, vous voulez trop être journaliste. » Et à l'époque, je dis bien à l'époque, dans les années 80, avant les années 80, le service, le grand service d'un journal, c'était la politique. Ouais. Et donc Philippe Tesson peut-être a reconnu
Paris,
en moi des qualités qui pouvaient me porter à suivre la politique au quotidien de Paris, qui est resté pour tous ceux qui y sont passés la plus belle école du journalisme, je crois.
Pourquoi ?
Ben, je crois qu'il y avait à la fois l'exigence et la liberté, la frivolité et la profondeur. Il y avait toutes les qualités d'un grand patron, Philippe Tesson, qu'il savait communiquer à ceux qui travaillaient avec lui. Et je crois que c'est assez rare. Et très récemment, nous avons fait un dîner avec lui, les anciens, parce que maintenant, nous sommes tous très vieux. Et je crois qu'à la fin du dîner, s'il nous avait dit « Bon, alors on y va, on va refaire un journal », je crois qu'on avait tous envie de dire oui.
Thank you.
L'adagio, on a envie de le chuchoter. La fin de l'adagio, la symphonie numéro 9 en ré majeur de Gustav Mahler, interprétée par l'Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado. Cette fin qui finit sur un pianissimo, Catherine Pégard, c'est un souvenir musical fort pour vous ?
D'abord, je trouve qu'on voudrait se taire. Je l'ai entendu dirigé par Claudio Abbado à la fin de sa vie et il y avait eu, à Pleyel, je crois, plus de deux minutes de silence à la fin de ce que nous venons d'entendre. Et évidemment, c'est tellement rare qu'on se taise ainsi. Et forcément, c'est une musique qui remue beaucoup de souvenirs, pas forcément des souvenirs joyeux. Encore que, pour donner une note un petit peu plus, là encore, légère, en pensant à ces extraits que vous souhaitiez que j'apporte, je relisais que Mahler disait lui-même qu'il avait fait cette musique, mais à un moment où il voulait se tenir droit face à l'adversité de la mort qui l'avait frappé auparavant. Et donc c'est à la fois effectivement cette espèce de fin, mais c'est surtout un temps suspendu qui peut ouvrir autre chose. Et je crois que c'est très difficile de comprendre ça. On passe une vie à essayer de le comprendre, sans doute. Et c'est pour ça que cette musique est particulièrement, je trouve,
dimension
nous habite.
Métaphysique, en fait, dimension métaphysique de cette symphonie.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Nous l'évoquions tout à l'heure, Catherine Pégard, vous avez été journaliste politique pendant 30 ans, grâce à Philippe Tesson qui vous a recommandé de peut-être pas directement aller dans le journalisme culturel. Et finalement, ça ne vous est jamais arrivé ?
Non.
À regret ou pas ?
Non, parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que je crois que je fais aussi du journalisme culturel à Versailles, parce que chaque jour j'apprends quelque chose de nouveau, chaque jour je fais une enquête sur Versailles.
Une enquête
Pour moi c'est une enquête sans cesse renouvelée, parce que je ne savais pas grand chose de Versailles lorsque j'y suis arrivée, et que ceux que je côtoie jour après jour m'apprennent Versailles, et ceux du passé d'ailleurs comme ceux d'aujourd'hui, les livres que l'on peut lire, les œuvres que l'on peut regarder, et ceux qui font Versailles aujourd'hui, c'est-à-dire les 1000 personnes qui travaillent au château de Versailles. Et c'est une expérience absolument formidable que de passer ces journées à découvrir quelque chose, et puis quelquefois quand même à décider, à faire des choix. Mais le point de départ est le même, la curiosité est la même.
Ouais.
Je crois qu'il ne faut jamais se lasser de ce que l'on vit, enfin il faut essayer. Et je crois que Versailles, c'est le lieu parfait pour n'être jamais blasé, pour n'être jamais ennuyé, et pour se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour transmettre un peu de ce Versailles au monde entier qui le regarde.
Amor volesse esprimere,
lo fa sua. Io lo perdono. Io lo perdono. Io lo perdono. Hai sola fa.
Le duo de Don Carlo et de Rodrigo, extrait de Don Carlo de Verdi, interprété par Jonas Kaufmann et Franco Vassallo avec l'orchestre du Teatro Reggio de Parma, sous la direction de Pier Giorgio Morandi. Alors, Don Carlo, je me suis dit, Catherine Pégard, c'est parfait pour vous parce que c'est vraiment le drame de la jalousie, la tragédie passionnelle où règne la mort et la trahison. Et puis c'est une œuvre politique à part entière. On est au cœur de ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui, c'est tout à la fois, et c'est aussi l'amitié.
Oui.
Et on vient de l'entendre, l'amitié malgré la politique.
Ça, c'est une question compliquée. Quand on est journaliste pendant 30 ans, journaliste politique, j'imagine que c'est une question qui est souvent revenue. Comment faire le tri entre l'amitié et la question politique? Et comment rester une bonne journaliste aussi?
Je crois qu'il faut rester à sa place. Et je crois qu'il faut que les autres sachent que vous êtes à votre place. Et après, je pense que les choses sont assez faciles quand on ne transgresse pas cette règle qu'on se fixe à soi-même. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas parler des hommes politiques ou de la politique sans connaître les hommes politiques. Donc je m'inscris assez volontiers en faux contre ceux qui disent « mais il faut surtout pas les voir parce que si on les voit, on est déjà compromis ». Pour moi, il faut les voir, il faut les entendre, il faut leur parler. Et puis après, il faut peut-être garder suffisamment, encore une fois, de recul et de quant à soi pour écrire ce que l'on a compris, ce que l'on a entendu, au plus près de ce que l'on croit être la vérité. Là aussi, c'est un travail un petit peu d'humilité quand même. Hein.
Et comment faire en sorte pour que ces personnes ne se sentent pas trahies, puisqu'on parle de Don Carlo?
Ben là, c'était la trahison, elle est plus vive encore entre hommes politiques. Entre journalistes et hommes politiques, il n'y a pas de trahison si on respecte les formes et les codes et les règles. Et je crois que je les ai plutôt assez bien respectées dans ma vie et que pour autant, je pense avoir dit les choses telles que je les savais. Je ne les ai pas cachées, mais je pense qu'il y a toujours une manière de dire les choses et de pouvoir les dire. Sans trahir la parole qu'on a pu donner d'un silence ou de... Dans le temps, on aurait dit d'un off, mais aujourd'hui, il n'y a plus de off, paraît-il. Mais il y a 10 ans encore, il y avait un off.
Le off, c'était ce qui se disait en dehors des micros.
Ce qui se disait en dehors des micros, mais ce qui alimentait la réflexion qu'on pouvait avoir pour raconter les choses. Et je crois que ça, c'est très important, c'est de mettre une action en perspective, mettre... un projet en perspective, c'est tout ça qu'on demande à un analyste politique.
pour en revenir à l'opéra, Don Carlo, on a parlé là de l'incidence avec votre carrière de journaliste, et puis on l'évoquera tout à l'heure aussi, de rejoindre Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Mais personnellement, ça résonne avec quoi? Est-ce que c'est l'interprète, Jonas Kaufmann, qui...
Il y a aussi beaucoup de lui, et comment ne pas craquer? De toute façon, on craque à chaque fois qu'il chante.
Toutes les femmes craquent, même les hommes.
Pas que les femmes, j'allais dire. Et effectivement, Kaufmann dans ce duo, c'est absolument magnifique. Mais je me souviens aussi de l'avoir entendu dans Fidelio. Et tout d'un coup, le temps est suspendu quand il dit Gott. Je ne parle pas allemand, mais il y a un moment où tous les grands chanteurs suspendent le temps sur ce mot. Eh bien, lui, il le fait magnifiquement. En plus, nous avons eu la chance de l'accueillir à Versailles, ce qui était un pas de côté pour Versailles, de sortir de la musique baroque. Il est venu chanter des leaders de Mahler en 2014, je crois. Et ça avait été un moment tout à fait merveilleux. Et si parfois il écoute votre émission, parce qu'il est souvent à Paris, eh bien c'est une invitation qu'il revienne à Versailles.
Eh bien d'accord, espérons qu'il vous écoute, qu'il nous écoute. Mstislav Rostropovitch interprète cet Allegro molto du concerto pour violoncelle numéro 1 en ut majeur de Joseph Haydn avec l'orchestre de chambre anglais sous la direction de Benjamin Britten. C'est un concerto dont vous disiez tout à l'heure, Catherine Pégard, que vous avez joué du violoncelle. C'est un concerto qui vous renvoie à ces années pénibles de violoncelle
ou... Oui, parce que pénible non, parce que j'ai vraiment compris assez vite qu'il fallait que j'arrête. Ou plutôt, on me l'a fait comprendre. Là aussi, mes parents, au moment où il faut changer de violoncelle, vous savez, quand vous êtes une petite fille, vous avez un petit violoncelle. Remarquez, j'aurais pu garder le petit violoncelle, je suis restée petite. Mais quand même, il fallait que je passe au grand violoncelle. Et mes parents m'ont dit, si tu te mets à travailler et à vraiment vouloir le faire, bien sûr, tu peux continuer. Et sinon, il faut savoir arrêter quand on n'a pas envie de faire les choses. Et je crois que j'ai réfléchi et qu'au fond de moi, j'avais pas envie. Mais j'avais tout à fait envie de continuer à écouter les autres en jouer. Et en plus, quand c'est Rostropovitch, évidemment, on se dit qu'il valait mieux arrêter tout de suite de travailler cet instrument, qui est un instrument par ailleurs magnifique et qui lui aussi peut vous accompagner à tous les moments de votre vie, dans la tristesse comme dans la joie. Et oui, c'est une voix. Et j'aurais pu choisir les suites de Bach, par exemple, parce que je me suis aperçue après que je parlais pas de Bach, mais les suites de Bach, c'est absolument sublime. Non, vous me regardez, oui, mais comment ne pas parler de Bach?
Non, j'allais dire, c'est très récurrent dans cette émission, c'est bien, une fois.
Mais je suis marquée aussi encore une fois, parce que j'ai lu d'André Tuboeuf sur Bach dans notre période d'aujourd'hui. Je crois que dans un moment où on parle beaucoup de violence, d'exclusion, de difficultés à vivre ensemble, etc. Je pense que cette musique, effectivement, nous rassemble, la musique de Bach, et donne une harmonie à la vie. Et c'est un petit peu ce que je voulais dire. Alors, en plus de Rostro, je l'ajoute, surtout que Rostropovitch a joué aussi les suites de Bach.
Et vous écoutez ce concerto pour vous détendre, alors ça...
Oui, parce que ce concerto, c'est plus facile d'écouter, facile n'est peut-être pas le mot, mais ça vous accompagne plus facilement que les suites de Bach qui, en général, vous accaparent davantage et vous possèdent plus. Cette musique, elle peut vous accompagner quand vous êtes en train d'écrire, par exemple.
Et justement, Catherine Pégard, on en vient à ces années à l'Élysée, parce que après 30 ans de journalisme politique, où on l'évoquait tout à l'heure, comment garder la distance ou peut-être justement à un moment décider d'accompagner un homme politique comme vous l'avez fait avec Nicolas Sarkozy. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a engagé dans ce chemin-là?
Ça s'est d'abord passé très vite parce qu'il m'a fait la proposition lorsqu'il est arrivé à l'Élysée. Et donc, écouter cette proposition, c'était déjà l'accepter parce qu'il aurait été difficile après de revenir dans son autre rôle, dans son rôle initial. Et j'ai pensé que je refermais une part de ma vie, une très grande part de ma vie qui, comme vous le voyez, reste très présente. Et j'ai fait ce choix d'aller voir peut-être de l'autre côté du miroir et de penser que je pouvais y apporter justement l'expérience que j'avais vécue auparavant. L'observation que j'avais eue de la politique et le fait que je pouvais garder cette même indépendance pour m'adresser au président de la République comme je m'adressais à lui lorsque j'étais journaliste.
La grande Cecilia Bartoli qui interprétait cet air d'Anastasio, Vedrò con mio diletto, extrait d'Il Giustino de Vivaldi. Et Cecilia Bartoli, c'est vous émeut pas aux larmes, Catherine Pégard, mais pas loin quand même. On sent que
pas loin. Et puis j'ai eu la chance de la voir à Versailles dans des moments où là les larmes vous venaient vraiment aux yeux. Par exemple, je me souviens dans la Galerie des Glaces. Où elle chantait dans une robe couleur tomate et le soleil tombait exactement au même moment. Et tout d'un coup, le temps a été totalement suspendu, dilué. Je pense qu'elle-même a eu un moment de presque d'éblouissement de voir ce soleil qui tombait pendant qu'elle chantait. Mmh. Et elle a une telle, à la fois une telle maîtrise d'elle-même et une telle intelligence de ce qu'elle dit, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle veut. Qu'elle nous procure toutes ses émotions. Et encore, je l'ai entendu aussi une fois faire un bis exactement sur le feu d'artifice qui commençait toujours à Versailles. Et pour moi, ce sera un souvenir lié à Versailles. Elle vient presque chaque année à Versailles. Je crois qu'elle aime beaucoup chanter à Versailles. Elle aime beaucoup l'acoustique de Versailles. Et évidemment, elle aime l'histoire de Versailles qu'elle connaît très très bien. Et donc, c'est autant d'émotions que l'on peut partager.
Musique et moi. Elsa Boublil, France Musique.
Catherine Pégard, comment ça s'est passé la nomination au château de Versailles? Donc, on parlait des années auprès de Nicolas Sarkozy. Et puis, c'est lui qui vous nomme.
C'est lui qui l'a décidé, oui.
Ouais.
sans m'expliquer pourquoi d'ailleurs. Et donc j'ai eu ce grand honneur d'arriver à Versailles, assez intimidée par le lieu. Toute ma vie pouvait légitimer que je sois intimidée. Mais j'ai essayé d'y travailler. Et voilà, j'y suis depuis 8 ans.
Oui, parce que j'ai lu des articles intéressants où on vous a
difficile.
Votre nomination était très contestée. Et dans ces articles, vous faisiez preuve d'une certaine humilité en disant bon, maintenant il va falloir que je montre si je sais oui ou non le faire. Vous parliez tout à l'heure de votre côté journaliste qui reste très présent à Versailles. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous a permis de d'y être encore depuis 8 ans maintenant?
Bien sûr, je crois que c'est ce qui m'a donné, je crois que j'ai employé le mot de curiosité tout à l'heure, et je crois que cette curiosité, elle ne vous abandonne jamais. Et je pense que j'ai eu la curiosité de ce lieu, que je l'ai tous les jours, et que je veux que ce lieu, faire le plus possible pour ce lieu. C'est la mission que je me suis donnée à moi-même. Et je ne peux le faire que parce qu'il y a des gens à mes côtés, et des gens qui en savent souvent beaucoup plus que moi. Mais c'est très stimulant d'être celui qui doit entraîner les autres, mais... et que ces autres vous entraînent en même temps. Donc il y a cette espèce d'échange constant. Et le journalisme, c'est aussi ça. Le journalisme, c'est pas de détenir une information. Le pouvoir ne vous vient pas de l'information que vous possédez. Elle vous vient du partage. Et je crois qu'à Versailles, on a 1000 choses à partager.
La marche au supplice de la symphonie fantastique de Hector Berlioz par l'orchestre révolutionnaire et romantique sous la direction de John Elliott Gardiner. Alors, c'est une œuvre qu'on a entendue, je crois, au Château de Versailles, Catherine Pégard.
Oui, ce qui est assez exceptionnel aussi, puisque on l'a entendu parce qu'on a proposé cette année une exposition Louis-Philippe et que Louis-Philippe a engagé des travaux à Versailles pour faire un musée de l'histoire de France qui referme la période uniquement royale du château de Versailles, au moment même où Berlioz composait la symphonie fantastique. Mmh. Et donc, en hommage à Louis-Philippe, pendant cette exposition, nous avons pu donner cette symphonie fantastique dans le décor même de Cicéry à l'Opéra Royal. Mmh. Donc, on a aussi exhumé ce magnifique décor, on l'a restauré pour la circonstance. Et donc avec John Elliott Gardiner qui vient lui aussi très souvent à Versailles, mais très souvent pour autre chose. Tout à l'heure, nous parlions du temps qui s'arrête dans certains moments. John Elliott Gardiner, j'allais dire, nous transporte de cette façon à peu près chaque année avec la Passion selon Saint Matthieu ou la Passion selon Saint Jean. Mmh. Nous vivons ces moments avec lui. Et là, c'était donc, comme on vient de l'entendre, totalement différent, une autre période, et une autre période qu'il a aussi ressuscité, parce que le moment où John Elliott Gardiner a commencé à jouer Berlioz, peu de gens en France se souvenaient que Berlioz existait. Donc c'est un triple hommage, et puis c'est aussi la reconnaissance de cette exposition fantastique qui ouvre 32 nouvelles salles à Versailles, et qui fait que Versailles cesse d'être d'une certaine façon hémiplégique entre cette partie 18e et cette partie 19e.
Oui, puisque bien sûr l'histoire court dans le château de Versailles. Et je voulais savoir, Catherine Pégard, pourquoi vous avez souhaité développer à ce point la programmation musicale?
D'abord parce que c'est la force de Versailles, c'est la vie de Versailles. Quand vous lisez les écrits de l'époque, vous voyez qu'il y a des musiques qui accompagnent le roi à tout moment. Et d'ailleurs, on reconstitue des parcours royaux. C'est tout à fait amusant de pouvoir imaginer qu'on vivait avec la présence de cette musique française. Et c'est donc une sorte de devoir de transmission aussi que de la faire entendre. Et donc aujourd'hui, nous avons près de 100 spectacles par an à Versailles. Il y en avait une cinquantaine il y a 6 ans.
Chips, provincia, fanta.
Aleph Commodo Sedet, la première leçon des ténèbres de Couperin, interprétée par Alfred Deller notamment, et qui nous renvoie encore au château de Versailles, Catherine Pégard, puisque vous programmez chaque année
Oui, je peux, chaque année au moment de la Semaine Sainte, c'est leçon de ténèbres. Cette année, interprétée par Vincent Dumestre, là aussi c'est un clin d'œil à la Normandie, puisque Vincent Dumestre est à Rouen le plus souvent. Mais là aussi, c'est une découverte que permet Versailles, cette musique française, encore une fois, qui accompagnait la vie de la cour dans tous ses instants, dans les bonheurs, dans les malheurs, les musiques des funérailles, les musiques des mariages, les ballets. Il y a des musiques pour toute occasion et je dois confesser que je ne le savais pas à ce point avant d'arriver à Versailles. Et c'est absolument formidable que de se dire que à peu près chaque semaine, on peut vivre un moment d'histoire à travers la musique.
Est-ce que, j'allais vous poser la question, là, est-ce que la musique permet d'appréhender le château différemment? Mais en fait, vous venez d'y répondre.
Bien sûr, je crois que c'est aussi une façon de voir le château. De la même manière que d'en visiter les jardins est une manière de regarder le château différemment.
Bien sûr.
Donc il y a de multiples entrées pour découvrir Versailles ou surtout le redécouvrir.
On va se quitter déjà, hein, Catherine Pégard. Ça nous donne envie en tout cas d'aller visiter le château de Versailles, de vous entendre en parler. Et aussi parce que vous, dans votre programmation, bien sûr, vous essayez de humer ce qu'il y a de récent. Et cet artiste a été découvert notamment sur France Musique avec Frédéric Lodéon. Jakub Józef Orliński, c'est oui. un artiste lui aussi qui permet d'appréhender le château de Versailles différemment.
Bien sûr, et je l'ai vu il y a quelques semaines à la chapelle royale de Versailles. C'est d'ailleurs insensé de voir à la fois cette jeunesse et cette maturité en même temps, et en même temps cette conscience de transmettre une musique qui n'est pas une musique poussiéreuse. Et je crois qu'on doit dire et redire qu'on peut venir entendre cette musique et qu'elle peut être interprétée de mille et une façons et qu'en tous les cas elle n'est pas solennelle. Et lui nous apporte ça avec cette fraîcheur qu'il a et en même temps avec cette perfection qu'il a aussi. Et je pense que si nous avons un devoir à tous les, dans toutes les pièces du château de Versailles, c'est montrer cela, c'est montrer qu'on ne s'y ennuie pas.
Merci beaucoup Catherine Pégard et puis rendez-vous au château de Versailles très prochainement.
Merci.
Le grand Jakub Józef Orliński qui interprète Nicolas Fagot pour terminer cette émission en compagnie de Catherine Pégard qui était donc l'invitée de Musique et moi ce matin. Pour tout renseignement concernant les concerts à venir au château de Versailles, il vous suffit de vous rendre sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Vous y trouverez toutes les références de l'émission. Un grand merci à Philippe Mercher qui était à la prise de son ce matin. C'est Sophie Pichon et Marie Ferdinand qui coordonnent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine à 11h. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique et un très bon dimanche.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.